Au sommaire, en ce jeudi, nous discuterons tout d'abord d'un sujet très actuel, la migration, une thématique qui retient l'attention de la communauté internationale et particulièrement de l'Europe et de l'Afrique, mais aussi de la République tchèque. Pour cela, nous accueillons dans nos studios Madame Khadija Elmadmad, avocate, professeure de droit et directrice du centre de l'UNESCO, la loi et la migration. Madame Elmadmad, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour monsieur, merci pour m'avoir invité à cette prestigieuse radio de Prague. Merci beaucoup.
Alors, si vous êtes ici à Prague, c'est parce que vous avez participé à l'université métropolitaine à une conférence donc sur la coopération entre le Maroc et l'Union européenne, une coopération en matière de migration. Alors tout d'abord, comment s'est passée cette conférence à Prague et quels enseignements en retirez-vous ?
Oui, déjà, je suis reconnaissante à l'Université métropolitaine de Prague pour m'avoir invitée à cette. C'est des séminaires très connus qui sont organisés en l'honneur d'un grand journaliste polonais, Ryszard Kapuściński, qui était vraiment la voix du tiers-monde, la voix des pauvres. Donc, ma conférence sur la migration au Maroc et les relations maroco-européennes dans ce domaine. Je pense que ça a été bien apprécié puisqu'il y avait une grande audience, beaucoup de questions. Et comme vous le savez, la migration maintenant, c'est le sujet de l'actualité partout dans le monde, pas seulement en Europe, mais ailleurs, partout, dans tous les continents.
Étiez-vous un peu au courant de la situation et de la position de la République tchèque concernant la migration, notamment concernant les migrants en provenance d'Afrique avant de venir ici à Prague ?
Moi, je pense, je suis un peu au courant. Malheureusement, je ne suis pas une grande spécialiste de votre pays. J'aurais bien voulu l'être, mais je ne suis pas. Je sais que, comme tous les pays maintenant, il y a une certaine réticence à recevoir l'autre. Et surtout l'autre quand il est d'une une culture différente. Donc, ça fait qu'il y a des hésitations. Et ce que j'ai essayé d'expliquer hier, que c'est tout à fait légitime pour les États qu'il y a ce problème qu'ils veulent résoudre, le problème de la sécurité. Mais il y a aussi, en même temps, les engagements de l'humanité. Alors, comment concilier entre sécurité et humanité? Et c'est là le problème. Et c'est comme ça qu'on définit une politique migratoire équilibrée quand il y a on essaie de répondre aux exigences de la sécurité tout en répondant aussi aux exigences de l'humanité. Donc, les migrants subsahariens, vous voyez ce qui se passe dans le monde, surtout en Libye, des tragédies humaines. Donc, je ne sais pas, il y a ce qu'on appelle en anglais le burden sharing, donc la solidarité internationale qui imposerait à tous les États, là où ils sont, de pouvoir un peu aider et soutenir.
Concernant cette conférence qui s'est tenue hier à l'Université métropolitaine, est-il possible de résumer en quelques mots les principales interrogations du public et du public tchèque, notamment les questions qui vous ont été posées?
Oui, moi j'ai essayé déjà dans cette conférence, je suis universitaire, vous savez, les universitaires ont une attitude différente des politiques. J'ai essayé d'expliquer comment le Maroc, qui est un pays du Sud, mais qui est aussi un pays qui a une position stratégique entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, reçoit depuis toujours des migrants. Et comment, depuis surtout les années 2013, il a décidé, et c'est Sa Majesté Mohamed VI qui a décidé lui-même d'adopter une politique humanitaire et solidaire à l'égard de tous les migrants, dont la majorité sont des subsahariens. Alors, je pense qu'il y avait un intérêt. Surtout, vous savez, il y avait beaucoup d'étudiants, de chercheurs, etc., pour savoir comment un pays qui est pauvre, qui est donc un pays du tiers-monde, notre journaliste polonais défendait beaucoup le tiers-monde, comment un pays comme le Maroc essaie, malgré les limites budgétaires et financières, d'aider. Donc, la réaction, c'était surtout comment il arrive à gérer cette situation. Et c'est là où on vient à l'Europe. Donc, le Maroc ne peut pas à lui seul régler le problème. C'est un problème international. Donc, et c'est là où il y a la coopération avec l'Europe. Depuis, on a toujours eu une coopération avec l'Union européenne. Et il y a eu beaucoup de conférences, de rencontres ministérielles, d'ONG, etc. sur cette question. Il y avait eu aussi beaucoup d'accords entre le Maroc et l'Union européenne pour essayer de stopper ces subsahariens, surtout parce que c'est la majorité qui sont chez nous, de rester au Maroc et de ne pas venir.
Justement, est-ce que pour les questions économiques, la diplomatie tchèque considère le Maroc comme une porte d'entrée, sur une porte d'accès au marché africain? Mais inversement, pour ce qui est des questions migratoires, est-ce que le Maroc ne pourrait pas aussi être finalement une porte pour fermer l'accès à l'Europe aux migrants en provenance des pays subsahariens?
Oui, du point de vue politique, l'Europe et surtout l'Union européenne en tant que telle a toujours essayé d'imposer sur le Maroc le fait d'arrêter ces gens, de ne pas venir en Europe. Mais en tout cas, le Maroc, ce n'est pas parce que l'Europe l'a imposé. Aussi, le Maroc, nous avons quand même une histoire avec l'Afrique subsaharienne. Et je pense que nous aussi, on a besoin de ces subsahariens. Parce que là, si vous savez, le Maroc est une population qui va devenir assez âgée, assez donc vieille dans quelques temps. Et nous aurons aussi besoin de ces subsahariens. Et maintenant, je ne sais pas si vous le savez, le Maroc a réintégré l'Union africaine. Et le Maroc est chargé du dossier immigration maintenant à l'Union africaine. Et Sa Majesté a donné un agenda. Et vous savez, pas tous les Africains sortent de l'Afrique. Il n'y a que 80% des migrations restent à l'intérieur du continent. C'est seulement moins de 20% qui cherchent à aller dans les pays riches. Donc, ce n'est pas un problème vraiment, un grand problème. Même ceux qui viennent chez nous, ils ne sont pas très nombreux. Ou s'ils viennent chez vous. Donc,
ils viennent pas en République tchèque. Donc.
Chez vous, ils ne viennent pas beaucoup, mais ils viendront.
Et quand ils viennent, on les accueille.
Avec les communications maintenant et les moyens de transport, tout est possible. Mais le meilleur, et moi je suis là d'accord avec vous, la meilleure solution pour tout ça, c'est de s'adresser aux causes. Pourquoi? Pourquoi ces personnes essaient d'aller ailleurs? Parce que moi, personnellement, en tant que militante des droits humains, je me dis qu'aucune personne, là où elle est, ne pourrait décider de quitter son lieu de résidence, de quitter sa famille, ses amis, pour aller ailleurs si elle a le minimum pour vivre. Et le minimum, c'est déjà la paix. S'il y a les guerres et tout, les personnes ne veulent pas rester. Et le minimum, c'est un peu de travail quand même, et un peu de dignité. Je pense que maintenant, au niveau international, on a compris ça. Le pacte mondial qu'on a et la déclaration de New York de 2016, c'est justement pour essayer de s'adresser aux causes et voir comment tous on est concernés, mais ça serait bien qu'on trouverait tous, sud et nord, des solutions qui conviendraient à tout le monde. Je suis d'accord qu'il y a des sociétés qui ne voudraient pas être inondées d'étrangers qui n'ont pas la même culture. Et donc, il faut trouver des solutions.
Justement, comment convaincre ces pays? Parce que l'Union européenne est formée de différents pays avec des histoires diverses, des cultures diverses. On voit bien que il y a une grande différence entre l'Europe de l'Ouest, sa perception de l'accueil des migrants, et aujourd'hui l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, qui est beaucoup plus hermétique. Comment, selon vous, peut-on convaincre ces pays qu'il faut faire davantage d'efforts, alors que si on analyse par exemple les résultats des élections législatives qui se sont tenues récemment en République tchèque, on voit que ce thème de la migration est un thème central qui n'a pas forcément lieu d'être quand on connaît la réalité de ce pays où les migrants, notamment en provenance d'Afrique, sont très peu nombreux. Donc comment convaincre ces pays de cette nécessité?
Moi, je pense que la meilleure chose pour tout le monde, ce serait l'éducation. L'éducation à l'humanité. Et je comprends complètement les pays d'Europe centrale, leur attitude, parce que l'histoire de ces pays explique tout. Alors que si on prend l'Europe de l'Ouest, il y avait une ouverture et l'Europe centrale n'a jamais colonisé qui que ce soit. Donc, ils ne sont pas au contact avec... Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une réaction comme ça. Mais c'est au niveau international qu'il faut travailler pour toutes les personnes là où elles sont comprennent qu'est-ce que c'est ce problème. Qui n'est pas, moi je pense que c'est pas très très un problème très grave, puisque il y a seulement selon les statistiques de l'Organisation internationale des migrations, seulement 3% de la population dans le monde est en déplacement. Donc c'est pas un grand nombre, mais il y a la peur. Il y a la peur, il y a aussi cette, donc mélange entre migration, extrémisme, etc., islamisme, qu'il faut essayer, et c'est là la mission, notre mission comme professeur, votre mission comme journaliste, d'expliquer qu'il faut faire la différence. Pas tous les migrants sont des extrémistes, pas tous les migrants sont des gens terroristes, et donc... pour qu'on accepte l'autre. Vous savez, moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'UNESCO, et l'UNESCO, elle a décidé que ce soit la décennie, cette décennie, c'est la décennie de la coexistence pacifique entre les cultures, entre les races. Et je pense que dans ce monde, on est obligé de coexister. On ne peut pas être fermé. Il faut juste et le faire d'une façon un peu expliquer aux gens, d'une façon diplomatique, et ne pas leur imposer des choses. Il faut que les gens acceptent d'eux-mêmes. Et moi, j'ai fait des travaux sur le terrain partout, soit en Afrique, en Asie, en Europe, même parmi les populations que vous pensez très fermées, quand vous leur expliquez la tragédie d'une personne, ils la reçoivent. C'est inné dans tous les êtres humains qu'on est là au secours de quelqu'un quand il a besoin de nous. Et je ne pense pas que l'Europe centrale soit différente. C'est une réaction de peur qu'il faut essayer de voir comment trouver la solution à cette peur.
Madame El-Malmad, dernière question. Si on revient à cette conférence, est-ce que vous avez le sentiment, par exemple donc l'auditoire de cette conférence, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est conscient du rôle que peut jouer un pays comme le Maroc, justement, dans ses relations, dans ses échanges entre l'Afrique et l'Europe. Cela vaut pour le Maroc, ça vaut aussi pour un pays comme la Tunisie. Est-ce que les gens ici sont conscients de cet aspect ?
Je pense, moi, c'est ce qui m'a semblé, les personnes étaient un peu surprises de savoir qu'un pays comme le Maroc joue maintenant un rôle de lien. Le lien entre l'Afrique et entre l'Europe. Aussi l'Asie, parce que nous avons beaucoup de Syriens aussi au Maroc. Nous avons 6 000 réfugiés syriens au Maroc. Donc, et je pense que certains des chercheurs que j'avais contactés, qui m'ont contacté par la suite, se demandaient comment un pays comme le Maroc essaie d'accepter tout ce monde. Je pense que, moi, je pense pas que le Maroc, quoi. Moi, je pense que c'est humain. Et le Maroc, maintenant, a décidé, et à haut niveau, de jouer un rôle pour que ces Africains, ces jeunes Africains, restent chez eux. Et donc, il faut qu'on travaille tous ensemble pour que ça se réalise. Rester chez soi, c'est avoir le minimum des droits humains. Et donc, je pense que ce qu'il faut maintenant, s'adresser à cette question-là. La paix, un peu de prospérité pour tout le monde. Il y a le problème climatique aussi. Parce que vous savez, le Maroc est le 16 samedi, nous serons membres de l'ECOWAS, l'organisation de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est encore beaucoup plus problématique parce que cet ECOWAS, nous sommes obligés d'ouvrir nos frontières. Il y a le droit d'entrée, sans visa, sans rien du tout, et de circuler. Donc là, il faut que le Maroc donne un exemple que malgré tout, ces jeunes Africains vont pouvoir rester en Afrique parce que l'Afrique aussi a besoin de ces jeunes. Vous savez, le problème, c'est que l'Europe, malheureusement, prend les meilleurs. Alors, il faut que ces meilleurs rentrent aussi chez eux pour essayer de développer. Et c'est une politique marocaine maintenant, avec l'Union européenne. J'avais parlé d'un projet qui s'appelle le Sharaka, partenariat entre le Maroc et l'Union européenne pour que les Marocains, qui sont de double nationalité, qui sont européens et marocains, qui veulent rentrer au Maroc pour l'aider, ils sont encouragés par l'Union européenne à le faire. Ils connaissent plus le Maroc, ils sont marocains et en même temps européens. Donc, je pense qu'on devrait faire ça aussi pour les autres pays subsahariens. Et ça, moi, je suis très optimiste parce que, comme je vous l'ai dit, les personnes, quand toutes les personnes préfèrent rester chez soi, vivre avec sa famille. Donc, si on essaie de trouver ça et arriver à cette solution, ça serait bien, sans quand même fermer les portes. Et j'avais parlé des Marocains. Il y avait le représentant de l'OIM qui me dit, mais vous savez, il y a les Marocains maintenant. Ça s'est arrêté pourtant quelque temps, mais maintenant il y a des Marocains qui partent en Espagne comme irréguliers. J'ai dit, les Marocains sont tous ce qu'on appelle Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est un grand voyageur marocain du 14e siècle qui a voyagé pendant 30 ans, qui a écrit beaucoup, qui a été partout dans le monde à cette époque-là, vous savez, médiévale, et qui est revenu mourir au Maroc. Il est revenu pour mourir à Tanger. Donc, je leur ai dit, Tanger au Marrakech. Je pense qu'il est mort à Marrakech, il est né à Tanger. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas fermer les personnes quand ils vont ailleurs et qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils reviennent chez eux. Et les Marocains sont très connus. Nous sommes de ça, ils reviennent à la fin. Nous sommes à la 4e génération de Marocains résidant à l'étranger qui représentent 10% de la population marocaine. Et vous savez, les transferts d'argent augmentent de jour en jour. Alors qu'ils sont à la 4e génération, ils sont nés à l'étranger, ils connaissent pas beaucoup le Maroc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là sont toujours attachés à leur pays et qu'ils reviennent un jour. 6 ans, si le Maroc évolue, s'ils en trouvent les mêmes possibilités qu'ils ont en Europe, ils reviendront. Et je pense que le Maroc essaie de faire un effort maintenant pour évoluer, pour garder aussi sa jeunesse.
Très bien, c'est donc sur cette conclusion optimiste, que nous arrivons au terme de cette interview. Madame Khadija Elmanmad, j'ai bien prononcé ?
Oui.
Merci
oui.
beaucoup.
Alors, pour terminer, je vous dis, ça, qu'est-ce que ça veut dire Elmanmad ? Alors, j'expliquais hier que le Maroc, c'est un melting pot. Melting pot de toutes les races. Et depuis, vous savez qu'on dit que le premier homme homo sapiens, c'était... On l'a trouvé maintenant au Maroc. C'est-à-dire, on est un pays, comment dire, le berceau de l'humanité. Et donc, on a tous les noms marocains qui ont une connotation migration. Donc, vous avez les noms berbères comme Elmanmad, Taktak, etc., qui sont les premiers, si vous voulez, habitants du Maroc. Mais nous avons des noms européens comme Cohen, Mouline, etc. Nous avons des noms aussi qui viennent de l'Afrique du subsaharienne, comme Bambara, Kunda, etc. De l'Asie, à l'Iraqi, à Tunisie, de l'Afrique du Nord. Donc, c'est un petit melting pot. Et j'espère que le Maroc donnera un exemple d'une société de coexistence pacifique.
Merci beaucoup, madame. Donc, Khadija Elmanmad, bonne continuation, bon séjour aussi.
Merci
à Prague.
Beaucoup.
Vous allez y passer.
Merci beaucoup. Et je vous félicite pour ce joli pays et cette jolie ville.
Madame Khadija Elmanmad, merci encore donc d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que vous êtes professeur à la faculté de droit de l'Université de Casablanca et que vous êtes la directrice du centre de l'UNESCO, la loi et la migration.